Jésus-Christ lui-même étant la bonne nouvelle pour nous. Gloire à Dieu. Ouvre avec moi l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je pense que ça va apparaître au-dessus. À partir du verset 24, on va lire trois versets, donc jusqu'au verset 27 inclus. Puis après, on ira dans l'évangile de Luc. Vous savez, c'est complémentaire, vous allez voir pourquoi. Alors, Matthieu, chapitre 7, verset 24, c'est pourquoi « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. » L'évangile de Luc, chapitre 6, verset 47. Jésus dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. » Dans ces paroles, Jésus termine le sermon sur la montagne, je dirais par une parabole importante, celle des deux maisons. Juste avant, il avait parlé de deux portes, également de deux chemins. Il avait parlé également de deux sortes d'arbres, de deux sortes de professants. Et il avait montré que seul, eh bien, peut entrer dans le royaume des cieux celui qui fait la volonté de son Père. Amen. Alors inversement, ceux qui se bornent tout simplement à dire de bonnes paroles, par exemple, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, cela en ton nom, etc. » mais qui n'agissent pas en conséquence, eh bien, n'ont rien d'autre à attendre tout simplement que le jugement. C'est des paroles dures. Mais il dit qu'elles ne sont pas si dures que ça, parce que Jésus, quand même, il prend la précaution de parler, de mettre en avant ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est utile de faire, et ce qui est agréable à Dieu. Non pas d'écouter seulement sa parole, se borner à l'entendre, mais à la vivre, tout simplement. Alors, malgré tout ce qu'ils auront fait, je reviens sur ceux qui ont dit « Seigneur, Seigneur », événement en son nom, eh bien, ils devront entendre cette parole de la bouche de Jésus. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est dur. Nous, on a chassé en ton nom des démons. Nous, on a guéri en ton nom. Et toi, tu nous dis, je ne vous ai jamais connu. Et il redira également, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Alors, professez extérieurement, être de Jésus, par exemple, sans se soumettre à sa volonté, sans faire ce qu'il commande, ce qu'il demande à l'homme, non seulement prouve, eh bien oui, la fausseté de la profession, mais conduit en outre à ce qu'on appelle la ruine éternelle. Ce serait dommage d'avoir entendu, d'avoir bien écouté, vous savez, entendu, et ensuite de refuser de mettre eh bien, quelque part ce que l'on croit ou ce que l'on entend en accord avec ce que l'on fait, eh bien c'est passé à côté. Dommage, croyez pas? Alors dans la parabole qui termine le sermon sur la montagne, Jésus résume encore une fois tout le domaine de la profession chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi. C'est notre appel, notre vocation, c'est également notre marche. Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui parlons de Jésus. C'est ça, professer quelque part. Alors il met le vrai et le faux l'un en face de l'autre. Et par là, il montre un autre contraste que celui que nous avons vu précédemment. Alors, il ne s'agit plus de dire ou de faire, mais d'entendre et de faire. Matthieu, chapitre 7, verset 24, je reviens. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, et la pluie, elle tombe. On a eu de ces beaux orages il n'y a pas longtemps. Oui, la pluie tombe. Les torrents sont venus quand il y a trop d'eau. Les torrents se gorgent d'eau et puis ils débordent. Les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et sur le rocher. Il y avait une bonne fondation, bien assise sur une partie dure, rocheuse. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé et qui a bâti sa maison sur le sable. On va à la plage, on fait des châteaux de sable, on voit les petits-enfants, ils se régalent. Et puis, à un moment donné, il y a une vague qui arrive. Paf ! Le château de sable, il n'existe plus. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée. Et cette ruine a été grande. Alors, ce n'est pas par beau temps qu'on éprouve si une maison est bien ou mal construite. On a les défauts souvent quand il pleut. On dit, tiens, il pleut, oh, ça rentre dans la maison, la toiture est mal faite. Ou alors, il y a du vent, ça souffle. Et puis, on entend aux fenêtres, on dit, oh là là, la bise, elle rentre même ici. Vous comprenez? Et c'est là qu'on se rend compte que c'est mal fait, on a mal construit. Ce n'est que les forces de la nature vont se jeter avec violence sur une maison, que l'on va pouvoir vérifier tout simplement la qualité de cette maison. C'est finalement la mise à l'épreuve. Eh oui. Alors notons que selon les paroles du Seigneur, la mise à l'épreuve de cette maison s'effectue de trois côtés. Il y a une pluie diluvienne qui tombe sur la maison par-dessus. D'accord, la pluie tombe comme ça, des fois un peu avec le vent, hein, mais elle tombe par-dessus, elle arrive d'en haut. Il y a également des courants d'eau, des torrents formés à l'improviste, comme cela, parce que ce n'est pas prévu, on ne bâtit pas normalement dans le fond d'une rivière. Hein. On s'abstient de cela, on bâtit plutôt sur les hauteurs. Mais voyez, quand ça déborde, quand il y a trop d'eau, quand il y a comme cela un moment difficile, un moment de forte tempête, ça mine la maison cette fois-ci, mais par-dessous. Vous voyez, ça s'en prend au-dessous. Puis il y a les vents impétueux. Eux, ils attaquent la maison de côté, hein, d'un côté et de l'autre. Hein, le vent, il change, bien sûr. Alors, si dans ces conditions, la maison n'est pas assise, je dirais, sur un fondement solide, elle va être perdue. Tôt ou tard, la maison va tomber. Alors, bien sûr, c'est une image pratique. Ça va être impressionnant. Mais en tout cas, c'est précis. Hein, ce que nous décrit le Seigneur, c'est quelque chose de précis. C'est pas, oh, peut-être que. Non, il dit, voilà, la ruine de cette maison sera grande. Alors, Jésus fait maintenant la différence entre l'homme prudent, l'homme insensé. Le prudent, il se distingue en ce qu'il entend, c'est les paroles, bien sûr, les paroles de Jésus, et les mains pratiques. Amen. Alors, avec cela, il construit, je dirais, sa maison sur le roc, puisqu'il bâtit sa vie personnelle, vous l'avez compris, sur la parole de Dieu, sur les commandements de Jésus. Sur les enseignements de l'Écriture. Amen. Alors, Jésus avait dit auparavant, dans Matthieu 7, 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Or, maintenant, il rajoute « Quiconque donc entend ces paroles que je dis, c'est Matthieu 7, 24, et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Alors, il faut commencer par noter ceci. Le constructeur n'est pas jugé d'après le soin qu'il apporte à construire la maison, mais d'après la nature du fondement sur lequel il va bâtir. Tôt ou tard, une maison qui n'a pas de fondation, elle va travailler. Mon père me disait, parce que mon père était entrepreneur de maçonnerie, il me disait, moi, pour que je garantisse une maison, je veux qu'il y ait 4 saisons qui passent. Et à ce moment-là, je fais la finition des façades. Et je suis sûr qu'il n'y aura aucune lézarde sur la façade. Parce que la maison, elle s'installe, elle prend sa place, elle s'assoit, vous voyez. Et quand elle a fini de prendre sa place sur le terrain, elle ne bouge plus. Amen. Alors, en mettant sur un pied d'égalité ses paroles et la volonté de son Père, Jésus revendique une chose. Je sais que ça a scandalisé les religieux de l'époque et ça en scandalise aujourd'hui dans certains domaines. Et il revendique tout simplement son égalité avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alors, je ne sais pas si ça vous scandalise ce soir. Moi, ça ne me scandalise pas, au contraire. Et ça me fait du bien parce que je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Alors, bien sûr, il y a une affirmation qui est forte de sa divinité. Et puis, effectivement, bien sûr, les deux sont sur un pied d'égalité. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Les foules qui écoutaient Jésus, bien sûr, ressentaient quelque chose de particulier chez lui. C'est son autorité. Il avait une autorité particulière avec laquelle il parlait et il enseignait. D'ailleurs, à la fin du chapitre, Matthieu chapitre 7, verset 29, il est dit, « Il arriva que quand Jésus eut achevé ses discours, la foule s'étonnait de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. » C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude d'être enseignés par d'autres, d'autres religieux. Mais quand il était question de Jésus comme enseignant, je pense que ça devait être un fin pédagogue. Mais en plus de cela, il était la parole de Dieu faite chair. Amen. C'est-à-dire que lui-même était abattu, revêtu de la parole. Il était la parole. Alléluia. Alors oui, la divinité de Jésus se manifestait dans tout ce qu'il disait. Et on devait dire en écoutant, mais c'est vrai ce qu'il dit. Et c'est important pour moi. Et j'ai besoin de me remettre en question parce que ce qu'il dit, c'est vrai que ça me bouscule intérieurement, mais c'est la vérité. Et si je n'abonde pas dans le sens de sa parole, mais je vais passer à côté. Parce que Jésus parlait, donnant un enseignement, il parlait aussi de l'aboutissement, de la récompense qu'il y avait également à vivre sa parole. Luc met plus que Matthieu l'accent sur la disposition à obéir. Parce que dans Luc, il est ajouté quelques paroles qui manquent dans Matthieu. Luc chapitre 6, verset 47, simplement cette partie du verset. Tout homme qui vient à moi. Tout homme qui vient à moi. Dans le tableau de l'insensé, nous ne voyons pas l'homme qui vient vers Dieu ou qui vient vers Jésus. Alors que quand il s'agit de l'homme prudent, eh bien, il est dit tout d'abord qu'il vient vers le Seigneur. Amen. Alors, le reste va suivre après. Parce qu'on ne vient pas, que c'est le Seigneur comme ça par hasard. Oh, je me suis perdu, je me retrouve devant toi. Non, d'abord, j'ai été trouvé. Et je suis devant le Seigneur. Parce qu'il m'a trouvé, il m'a montré, il s'est révélé. Et devant cette révélation, je suis confondu. Je ne peux que dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secourir et viens m'aider. C'est à toi que je crie. Amen. Le contraste entre entendre et faire, ou entendre et ne pas faire, eh bien, est souligné à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et je dirais qu'il est justement trop facile, facilement possible de prendre connaissance des paroles de Dieu et ensuite de ne leur accorder aucune suite. Vous voyez ? J'ai entendu. Parce que des fois, ça nous coûte quand on entend la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit, allez, tu dois lâcher ça. Oh zut ! Le reste, d'accord, mais pas ça. Et justement, il va là où il faut. Parce qu'il sait que ça, justement, si je ne veux pas le lâcher, j'ai une raison. Lui, il a sa raison aussi. Et sa raison, c'est que si j'abandonne ce qui me demande d'abandonner, je vais être libre. Je vais pouvoir suivre sa parole. Je vais pouvoir suivre son enseignement. Je vais pouvoir vivre de ce qu'il me dit. Tandis que si je ne l'abandonne pas, tôt ou tard, il y aura un frein. Il y aura une entrave. Ce sera trop lourd. Je ne pourrai pas. Je vais te carteler, je vais te partager. Donc il dit, non, hein, si tu veux vivre, alors libère-toi de cela. Moi, je te le dis, hein, tu dois le suivre, tu dois le vivre. Et à partir de là, mais écoutez, la vie est belle. Amen. Eh oui. Alors quand je dis qu'il est trop facilement, je dirais, eh bien, possible de prendre connaissance de la parole de Dieu et de ne pas accorder de suite, c'est une grande réalité. Mais pour avoir la bénédiction, entendre, je dirais, c'est que le premier pas. Il faut ensuite faire le deuxième pas. Amen. C'est obéir. C'est vivre. Pour vivre la parole de Dieu, c'est le mettre au dur. Mais j'ai une chose à faire, c'est de demander le secours de l'Éternel. Seigneur, aide-moi. Là où j'en suis maintenant, je ne peux pas. Alors, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin que tu me donnes la force, peut-être, de couper avec quelqu'un, de faire quelque chose que je dois faire, bien sûr. Alors, n'accorder aucune considération aux paroles, je dirais, de la plus haute autorité dans le ciel et sur la terre, c'est non seulement, allez, je dirais, le sommet de la folie, puisque Dieu me veut du bien, amen, Dieu veut que je sois béni, que je sois enrichi, que mon âme prospère à tous égards, etc. Mais c'est aussi, je dirais, de la négligence, excusez-moi, de l'incrédulité. Je dis que je crois, mais si je ne suis pas prêt à faire le pas quand il me dit de le faire, est-ce que je crois vraiment ? Dites-moi. Eh oui. C'est Jacques dans son épître qui nous met en garde, c'est Jacques chapitre 1er verset 22, contre le fait d'être des auditeurs oublieux. Eh oui. Verset 22, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. C'est important. Il est dit de se regarder dans un miroir et ensuite on oublie. Je sais qu'il y en a un qui a dit, chaque fois que je me regarde, en me regardant dans le miroir, je me vois président. Ah oui. Alors dans la lettre à l'église de Laodicée, Jésus se tient dehors. Il va heurter à la porte, et bien sûr c'est la porte des cœurs, c'est notre porte, nos cœurs à nous. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, ça nous parle de convivialité. Amen. Vous allez manger chez des amis, chez des gens que vous aimez. Vous n'allez pas manger chez votre ennemi. Ça peut arriver, mais dans certains domaines, quand il est question d'affaires. Voyez. Mais là, ça nous parle de convivialité, ça nous parle d'amitié. Amen. Alors, entendre la voix de Jésus est une chose. Lui ouvrir ensuite la porte en est une autre. Amen. Et la bénédiction qui suit le fait de lui ouvrir la porte, eh bien, je dirais qu'elle est incomparable. Puis, peut-il y avoir quelque chose de plus précieux que de se retrouver dans l'intimité de Jésus, dans la présence intime du Seigneur? Il n'y a rien de mieux. Amen. Il n'y a rien de mieux. Alors, de plus, entendre les paroles de Jésus, les suivre, n'apporte pas seulement, je dirais, de la bénédiction, mais c'est aussi une affaire de prudence. Amen. Jésus décrit l'homme qui a fait cela comme étant prudent, intelligent. Je dirais que le sens de base du mot grec, c'est soucieux et réfléchi. Donc, quelque part, il est soucieux et il réfléchit. Alors, cet homme, bien sûr, pense à l'avenir. Il réfléchit au fait que des tempêtes, des torrents, bien, viendront certainement. Et une personne qui dit « jamais il y aura de tempête dans ma vie », c'est impossible. C'est de la folie. Dans toute vie, il y a des moments plus durs que d'autres. Il y a des moments où la tempête se lève. Donc il est prudent. Quelque part, il est sensé. Et puis il s'organise en conséquence pour la construction tout simplement de sa maison, de sa vie. Que fait donc l'homme prudent dans notre parabole? Eh bien, il se cherche un solide fondement pour sa maison, puis construit sur le roc, sur le rocher. Et pour la foi, eh bien, je dirais qu'il y a bien des entraves à surmonter. Amen. Bien des idées, je dirais, des traditions humaines à déblayer. Ce qu'exprime l'évangile de Luc quand il dit ceci, Luc chapitre 6, verset 48. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, qui a creusé profondément et qui a mis le fondement sur le roc. Amen. Eh oui, creuser profondément montre quelque part du sérieux. Allez, je ne vais pas faire une petite rigole, je mets du béton avec du fer et puis c'est bon. Non, je vais creuser. Creuser pour qu'il y ait une bonne assise. Amen. Donc, il montre le sérieux. L'homme s'est mis au travail. Ça coûte. Eh oui. Alors, quelle qu'en soit, je dirais, la manière, chacun de nous bâtit sa maison. Et je dirais, au lieu de dire maison, on peut aussi dire notre vie. Amen. Notre bonheur. Notre avenir, notre espérance, notre sécurité, et vous pouvez en mettre. Chacun de nous bâtit. Mais bâtissons de la bonne manière. Bâtissons sur la parole de Dieu. Bâtissons sur les commandements du Seigneur. Amen. Alors il s'agit de trouver pour sa propre vie, pour son propre bonheur, pour son avenir ou sa sécurité, un fondement fiable qui va résister aux charges du temps, de l'avenir, des fondations qui vont permettre justement à notre vie de durer dans le temps. Et c'est une question d'éternité. Oh. Ce n'est pas un passage. Bien sûr qu'on a une vapeur qui paraît pour un point de temps, qui ensuite disparaît. Mais notre âme, on est poussière, on retournera à la poussière. Mais notre âme, elle est éternelle. Et il faut qu'elle soit solidement attachée à la parole de Dieu. Alors, ce qui forme ce fondement, bien sûr, ce sont les paroles du Seigneur, la parole de Dieu. Même quand le ciel et la terre passeront, il dit que ces paroles, à lui, ne passeront pas. Amen. De fait, s'appuyer, je dirais, par la foi sur ces paroles, c'est cela, bâtir sa maison sur le roc, sur le rocher. Jésus est appelé le rocher des âges. Amen. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'ai cru. Je crois toujours. Mais à un moment donné, il m'a fallu croire. J'étais athée. Je ne croyais pas. Mais il m'a fallu vivre cette expérience de rencontre avec le Seigneur. Et depuis que j'ai cru, j'ai cette rencontre avec lui, mes amis, je m'appuie sur sa parole. Et j'ai des uluberlus de temps en temps qui viennent me glisser quelque chose à l'oreille. J'ai dit, attends, je vérifie. J'ai lu plusieurs fois la Bible, mais ça, je ne l'ai pas entendu. Alors écoute, remets-toi en question. Hein? Regarde la Bible, ce qu'elle dit. C'est le livre de Dieu. C'est le livre qui a traversé les âges. Il n'a pas suivi des modes. Mais c'est toujours le même. Amen. Et quand la Bible me dit que j'ai cru à celui qui a été envoyé, Jésus, j'ai saisi sa parole, je me suis repenti, je me suis engagé, j'ai pris un engagement personnel par le baptême, donc maintenant je ne viens point en jugement. Je suis passé de la mort à la vie. Bien sûr, il me faut persévérer. Amen. C'est-à-dire que j'ai posé le bon fondement, maintenant je construis. Et ma vie, je la construis jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Alors, sous cet aspect, le croyant, bien sûr, ayant fait cette rencontre, quelque part, il va bâtir sa maison. Hein, il va bâtir sa maison. Il a entendu, il a cru, il sait. Et un jour, la pluie, des fois, c'est des pluies diluviennes, hein, qui tombent, bien sûr. Le torrent vient, les vents soufflent, je vais être contre la maison. Mais elle ne tombe pas. Des fois, il y a des crises, hein, dans nos vies. Il y a des moments difficiles, hein. Et c'est là qu'on voit son abattu sur le roc, sur le rocher. Amen. Et puis en plus, étant fondé sur le roc, il ne vient pas en jugement. Formidable, hein? Eh oui. Alors notre maison ne sera pas touchée par tout cela, parce que notre vie, ou pendant notre vie, nous sommes confiés au Seigneur, en sa parole. Et comme la parole du Seigneur demeure éternellement, ainsi, eh bien, demeure éternellement celui qui se confie en cette parole, qui la vit. C'est-à-dire qui fait la volonté de Dieu. Amen. Et ça, je crois que c'est une pensée réjouissante par-dessus tout. Hein. Combien il est bon d'entendre et de vivre selon le conseil de Dieu. Amen. De méditer le conseil de Dieu et de l'appliquer à son cœur. Et quelquefois, c'est des paroles difficiles, je disais tout à l'heure. Mais c'est là qu'il faut tourner les regards un peu plus haut. Amen. Déjà, se détacher de soi-même et dire, Seigneur, moi, je n'y arriverai pas. Mais j'ai besoin de toi. Amen. Il faut faire cela, bien sûr. Alors, dans le cas de l'homme insensé, il n'est pas parlé de creuser, mais il est dit simplement, Matthieu 7, 26, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. » Ça, c'est le problème. Mais c'est quand même lourd de conséquences, vous ne croyez pas? Vous aimez bâtir quelque chose qui ensuite vous tombe devant, là? Il y a une publicité, hein, je ne dirais pas laquelle, mais un gars qui monte un meuble, ils sont heureux, ils s'assoient dans le canapé, ils veulent mettre les pieds sur la table du salon, et puis quand il met les pieds, boum, tout est en bas. Bon, c'est une table de salon, c'est une image. Mais quand on a bâti sa vie, et qu'au moment le plus important, on passe à côté, je ne vous ai jamais connu. Oh, c'est difficile, hein? Eh bien, c'est ça, entendre ne pas faire. Ce sera passé à côté, hein? C'est ce que le Seigneur Jésus désigne finalement, eh bien, construire sa maison sur le sable. Eh oui, sur le sable. Alors, y a-t-il rien de plus insensé que d'établir dans le sable sa maison, c'est-à-dire toute sa vie sur les sables mouvants? Son bien-être, hein, ses peines, l'éternité, la joie, le bonheur, ben, il va nous échapper souvent, le bonheur. La paix, ça va être en dents de scie, hein. Oh, je suis en paix. Pour catastrophe, c'était pas prévu. Oh, je suis dans une galère terrible. J'ai peur. Nous, pas sûr, on entend ça quelquefois. Pasteur, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Puis on explique. Oh, d'accord, je comprends. Mais écoute, il faudrait que tu t'attaches plutôt à cette parole de l'Écriture. Parce que celle-là, elle est pour toi. Amen. Si le Seigneur te dit qu'il est ton bouclier, mais prends ce bouclier, le bouclier de la foi, et bandis-le devant l'adversaire. Ce sera ta protection. Le casque du salut, tu es sauvé. Vous croyez, pasteur, que je suis sauvé? Mais oui, tu as fait une belle expérience, tu t'es repenti de tes péchés, tu as rencontré le Seigneur, ta vie n'est plus la même. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais oui, mais il m'arrive de mauvaises pensées, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que tu as confessé le nom de Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Ah oui! Ben alors, arrête de douter. Chasse cette pensée. Amen. Elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'adversaire de ton âme, qui lui veut te faire douter tout simplement de ton engagement. Tu professes Jésus? Ah oui! Tu parles de Jésus? Mais oui, pasteur! Eh bien alors, arrête! Et réjouis-toi! Il marche en vainqueur. Parce que Jésus a fait de toi un vainqueur. Amen. Alors oui, toute notre vie peut être basée sur des choses solides, sur le solide fondement de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il vaut la peine d'examiner, je dirais avec le plus grand soin tout simplement, eh bien le sol, c'est-à-dire la parole du Seigneur, sur lequel nous allons construire notre vie. La parole de Dieu, c'est le roc, tout le reste, ce que les gens disent, ce qu'ils enseignent, c'est du sable. Et vous savez, les modes, ça va et ça vient. Avec mon épouse, on disait, tiens, ça revient à la mode, c'était quoi? Les guinguettes, ça revient à la mode. On a vu ça à midi, là, aux infos. Eh oui, mais vous vous rendez compte? Et que dit la parole de Dieu? Qu'avec le temps, tout revient. Comme il dit l'Ecclésiaste. Plus fort? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Eh oui. Amen. Alors on a besoin de la parole de Dieu parce qu'elle est immuable, elle ne change pas. Je crois qu'il vaut la peine, bien sûr, d'examiner avec soin, bien sûr, cette parole. Aujourd'hui, bien sûr, c'est encore, on le sait, le temps de la grâce. Hein. Amen. Parce que si le couteau ne faisait que descendre et s'abattre, hein, le couperet serait difficile. Mais aujourd'hui, on peut encore entendre la parole de Dieu. Parce que peut-être que dans les jours qui viennent de passer, ou aujourd'hui même, tu as failli à un moment donné, tu ne savais plus et tu t'es mis à douter. Reviens tout simplement sur l'ancien sentier. Amen. Sur le roc, sur le fondement solide, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, allez, si tu t'es trompé, si tu as failli, si tu as péché, repens-toi. C'est un acte de foi, ça ou pas? Je me repens. Seigneur, je m'humilie devant toi, je te demande pardon. Ce que j'ai fait n'est pas bien, j'ai besoin de ton pardon. Et là, de nouveau, on est sur le roc, sur le rocher. Amen. Bien sûr, on abandonne le péché. Il ne faut pas faire comme cette femme qui avait péché, à qui Jésus va dire tout simplement, parce que tous étaient prêts à la condamner. Jésus disait, allez, qu'un d'entre vous, le premier qui jette la pierre, après tout, vous pouvez y aller. Mais il faut que celui qui va jeter la pierre soit sans péché. Et les autres, pareil. Délicatement, on a posé sa pierre, on est parti. Je me suis toujours dit, mais où est le deuxième? Parce que pour connaître l'adultère, il faut être deux, quoi. Minimum, hein. Et où est le deuxième? Alors peut-être que le gars, c'était un gaillard en notable, je ne sais pas. Quelqu'un qui avait de l'influence, il en a laissé de côté. On s'en est pris à une pauvre femme. D'accord? Et quand Jésus lève la tête, mais où sont tes accusateurs, là? Lapin! Il souligne quelque part, hein, c'est ça qu'il souligne. Hein. Mais alors, tous étaient pécheurs, tu vois. Allez, je te pardonne parce que moi, je pourrais te condamner. Je suis juste. Je suis sans péché. Allez, va et ne pêche plus. Amen. Et de ce fait, eh bien, nous voyons que la parole de Dieu, mais c'est un fondement solide et précieux. Amen. Parce que quand l'accusateur il vient à la barre de notre conscience pour nous dire « t'es pas si terrible, toi hein ?» Eh bien, moi, je lui réponds, ok, je ne suis pas terrible, mais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Hein? Tu veux m'accuser? Écoute, moi, je me suis repenti de mes péchés. Hein? Ce que tu fais revenir dans ma mémoire, c'est le passé. Et le passé, c'est le passé. Maintenant, je vis au présent avec le Seigneur. Et le futur, eh bien, c'est lui qui va le dérouler devant moi. Et je vais me réjouir chaque jour. Alléluia. Alors oui, quelque part, c'est souscrire une assurance sur la vie, une assurance sur l'éternité, que de suivre les commandements du Seigneur, que de suivre la parole de Dieu. Vous avez envie de la suivre? Qui a envie de la suivre? Qui? Ouais, bien, on a envie, hein? Parce qu'on a envie de se réjouir. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole.